vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama, saison estivale.
Y'a des soleils, y'a des nanas, na-la-di-la-na.
Cinérama l'été.
On va s'en fourrer jusqu'à là, na-la-di-la-na-na.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial. Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Cinérama l'été, on se passe de l'actualité.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama cet été avec deux séries, l'une sur les bandes originales de films, et chaque émission Nous avons une décennie, et bien nous allons terminer avec des bandes originales entre 2009 et 2019. Et puis il y a une autre série, c'est celle sur Marcel Pagnol. Guillaume, et de quoi tu veux nous parler?
Je vais vous parler de son dernier film de cinéma qui est Les Lettres de mon moulin.
Et puis, il y a aussi une partie actualité dans cette émission, en toute fin d'émission. Et là, cette fois-ci, c'est de la grosse actu, puisque ce sont deux films qui étaient en compétition à Cannes. Il y en a un qui a reçu un prix, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Et puis, il y a le très attendu Alpha de Julia Ducournau, qui est maintenant dans les salles. Allez, on commence Cinérama avec le blind test consacré aux bandes originales de films.
Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie, tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
Le principe des blind tests, il est très simple. Nous écoutons 5 extraits. Et là, donc, il va falloir deviner le nom du compositeur ou trouver le titre de film, donc d'un film qui est sorti entre 2009 et 2019. Premier extrait. Alors, ça n'a pas été trouvé. Qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? Je connais pas du tout, moi, ce compositeur, qui, visiblement, à en juger par l'orthographe, est plutôt nordique. Et le film, c'est un film de 2019, et c'est un film sur un des personnages liés à Batman.
C'est Joker?
Oui.
Ah oui. Je vois le nom, mais je serais incapable de le ressortir.
C'est Hildur Guðnadóttir. Voilà.
Ouais, non, pas facile à prononcer.
Et donc, il accompagne la transformation du personnage avec un mélange de gravité et de lenteur qu'on entend là. Et ce thème construit sur des nappes orchestrales sombres et pesantes reflète l'enfermement psychologique du Joker. Voilà, ça c'est fait déjà. Deuxième extrait. Normalement, ça devrait être facile, mais il faut voir. Alors, je suis surpris que ça n'ait pas été trouvé. C'est un thème qui revient souvent dans ce film de 2016, qui est un film américain, mais réalisé par un réalisateur français, qui a marqué les esprits, qui s'ouvre avec une immense séquence de comédie musicale. Et c'est un film de comédie musicale, d'ailleurs. C'est La La Land.
C'est La La Land. Oui. Alors, j'avoue que les années 2010, la musique de film me plaît moins. Donc, je pense être moins performant parce que j'étais un peu moins assidu sur les compositions.
Et celle-ci est de Justin Hurwitz, un thème pour piano qui revient donc à plusieurs moments clés du film. Il est simple et mélodique et il reflète à fois la romance et la mélancolie du récit. Et puis il incarne la relation entre les deux personnages, Emma Stone et Ryan Gosling. Voilà, donc c'était pour La 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 Land, troisième extrait de ce blind test consacré, je le rappelle, aux bandes originales de films.
Alors j'ai trouvé, grâce aux percussions africaines en fond qui arrivent un petit peu plus tard que le début du morceau, c'est Black Panther, mais je ne sais plus qui l'a composé.
Alors c'est Ludwig Göransson, film de 2018, et ce morceau de fin, c'est le morceau de fin du générique, il synthétise les différents éléments de la bande-son, donc les influences africaines, électroniques, et puis l'orchestration épique qu'on entend bien là, qui résonne bien, donc ça crée un mélange finalement sonore identifiable. Pour ce film qui a marqué le box-office. Nouvel extrait de ce blind test. Très beau morceau pour un film que j'avais trouvé excellent. Film de 2016 qui se déroule, alors c'est personnage homosexuel, noir. C'est Moonlight.
Non, je ne l'ai pas vu.
Et oui, de Nicolas Britell, ce thème donc qui, bon, c'est un thème discret et fragile qui évoque l'enfance du héros et c'est basé donc sur quelques notes répétées au piano qu'on entend là et ça traduit l'introspection et la solitude du personnage.
Mais c'est un film à voir. Hein, voilà, quand même. Le morceau me donne envie. J'étais passé à côté du film. La musique me fait envie.
Film remarquable. Et puis c'était à une époque finalement où même les personnages noirs, on ne les voyait pas tant que ça au cinéma. Et là, ils sont tous quasiment noirs ou latinos. Voilà. Dernier extrait de ce blind test. Trouvé. C'est un film qui a fait peu d'entrées, je pense, mais avec Scarlett Johansson dans un rôle un peu étrange.
Ah, ça, je pense que je vois. Alors, ça doit être Under the Skin. Oui. Moi, je me rappelle surtout la musique quand elle se, pas quand elle se transforme, mais quand elle attire ses victimes dans cette espèce de boue noire. Il y a des espèces de violons très stridents. Ça, là, c'est là, je me rappelle très très bien. J'avoue que le morceau plus calme que tu viens de passer m'a moins marqué.
C'est quand même une bande originale qui repose sur beaucoup de sons synthétiques. Et là, bon. là, c'en était une des expressions. Mmh. Et là, ça accompagne la scène centrale marquée par l'ambiguïté entre trouble et empathie. Et elle est de Mika Levy, cette bande originale donc, du film de Jonathan Glazer, Under the Skin, film de 2013. Ainsi s'achève ce blind test consacré aux bandes originales de films. Cette fois-ci, nous avions pris la décennie 2009-2019. Et pourquoi pas écouter un titre alors très très emblématique de cette décennie ou du début de l'autre, puisque nous allons écouter Hans Zimmer avec Inception. Deuxième série de cette émission Cinérama estivale, elle est consacrée à Marcel Pagnol et aujourd'hui ce sont les lettres de mon moulin.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci.
En 1954, Marcel Pagnol revient derrière la caméra dans une forme d'hommage à ses racines, à la Provence, hein, et à un autre écrivain qui l'a profondément influencé, Alphonse Daudet, hein, à travers les lettres de Mon Moulin. Alors ce qu'il y a à noter, hein, c'est que ce film est bien plus qu'une simple adaptation, hein, c'est une vraie rencontre entre deux grandes voix méridionales, hein, deux amoureux des mots et du terroir. Alors Daudet, avec ses lettres, avait peint une Provence bucolique, hein, drôle et parfois mélancolique. Pagnol, lui, y ajoute sa propre sensibilité, hein, son goût pour les dialogues et les échanges de mots savoureux, sa manière de dégager du lot, hein, des personnages hauts en couleur, et cette forme de réalisme poétique, hein, qui fait sa patte. Alors les lettres de Mon Moulin doivent forcément faire un tri, hein, dans le texte de Daudet, hein, puisque l'adaptation est de seulement 3 des 29 lettres, hein, précédées d'un prologue. Il y a l'élixir du père Gaucher, le secret de maître Corny et les 3 messes basses. Une quatrième lettre, hein, le curé de Cucugnan, avait été tournée mais pas incluse, et le segment sera ultérieurement finalisé par Pagnol, hein, pour la télévision en 68 dans un moyen métrage également intitulé Le curé de Cucugnan. Cependant, Pagnol ne trahit jamais l'esprit des textes. Hein. Ce fin connaisseur de la Provence, hein, fait s'incarner ces fameuses lettres qui deviennent littéralement objets de cinéma.
Bonjour maître Corneille, je suis presque votre collègue.
C'est le monsieur de Paris qui habite le Moulin des Cigalières.
Ah bon. Et comme je vois tourner vos ailes depuis 3 mois, il m'est venu l'envie de les voir de plus près et de vous faire une petite visite.
C'est pas une mauvaise idée.
Et de boire une bouteille de vin blanc avec le dernier meunier de la commune.
C'est encore une meilleure idée. Ah, j'ai bien connu votre moulin des Cigalières. J'y ai fait mon apprentissage.
Alors vous l'avez vu tourner?
Tourner? Mais nous y faisions au moins nos 20 sacs par jour.
Oh, il n'y a pas si longtemps, il y a 60 ans peut-être. Mais pas plus.
Il est arrêté depuis 60 ans.
Bon, les Français de Paris sont venus. Et ils ont eu l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Perrachon. Et alors, il y en a qui y sont allés.
Tout nouveau, tout beau? Et puis la minotterie, elle venait chercher le blé jusqu'à la ferme.
Et on leur envoyait la farine, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Alors une autre minotterie, Arles, une autre à Miramas. Et toujours avec cette vapeur-là, qui est une invention formidable. Et les uns après les autres, les moulins se sont arrêtés.
Il a fallu vendre les croix en or et partir à la ville pour trouver du travail.
Mais tout ça parce que les paysans ne sont pas intelligents. Ils n'ont jamais compris que les moulins faisaient partie de leur vie.
Les trois messes basses, l'élixir du père Gaucher et le secret de maître Cornille donc composent trois récits se rattachant à un monde rural, hein, simple, lié à ses traditions. On pourrait se dire qu'à l'arrivée imminente de la nouvelle vague, hein, l'univers de Pagnol semblerait devenir désuet, sentiment qui pourrait être renforcé par le fait que Les Lettres de mon moulin sera son ultime réalisation pour le grand écran. Mais ça serait oublier que Pagnol sait filmer cet univers à la fois réel et mythique, hein, à la fois profondément réaliste et totalement suspendu dans le temps. Alors ce qui frappe est peut-être encore plus aujourd'hui, hein, maintenant que le visage de la Provence a quasiment totalement changé, c'est à quel point Les Lettres de Montmoulin échappent à toute datation. Alors ce n'est ni un film du passé, ni un film d'époque, hein, c'est un film littéralement hors du temps, hein, qui nous parle de la Provence dite éternelle, hein, celle de la nature, de la tradition orale, des histoires qu'on se raconte le soir au coin du feu et qui ont pris ici la forme de lettres, telles des contes, hein, sous la plume adaptée de Daudet. C'est un cinéma simple, mais il faut le préciser, pas simpliste. Hein. Il est modeste, mais d'une grandeur humaniste, encore une fois, gigantesque. On peut presque dire qu'on a basculé parfois en pleine pastorale, pas très éloigné d'Astrée Céladon, d'Honoré d'Urfée. Il y a dans chaque histoire une morale champêtre subtile, une mélancolie légère, une réflexion sur la condition humaine, la foi et la superstition.
Comment avez-vous baptisé, comment avez-vous appelé cette merveille ? Enfin, le titre, le nom.
Nous avions pensé à l'élixir de Tante Bégon.
Tante Bégon, c'est cette dame pieuse qui vous a légué le secret.
Oui.
Pas mal. Pas mal, mais c'est laïque. N'importe qui peut faire une liqueur de Tante Elodie ou de Tante Fine. Mais vous, vous qui disposez d'une abbaye, ce serait criminel de ne pas vous en servir. Voyons, comment s'appelle votre savant, celui qui doit refaire la liqueur?
Ah, le frère Gaucher.
Magnifique! Élixir du frère Gaucher. Ah, ça sonne bien. Et vous mettez sur l'étiquette le frère Gaucher, jeune, beau, en prière, avec un peu plus haut, un ange doré qui lui apporte le secret.
Ah non, monsieur Charnig, non. Nous ne ferons pas intervenir les anges dans une opération commerciale.
Oh, vous savez, une opération qui a pour but de gagner de l'argent pour soigner les enfants malades, il me semble que les anges ne seraient pas fâchés de s'y associer. Enfin, les anges, vous les connaissez mieux que moi. En tout cas, l'élixir du frère Gaucher, c'est très bon.
Le dernier film pour le cinéma de Marcel Pagnol a été réalisé dans la douleur, hein, puisque le cinéaste venait de perdre sa fille, Estelle, âgée de 3 ans. Comme le dit Jacqueline Pagnol dans ses entretiens avec Alain Ferrari, hein, les Lettres de Montmoulin furent donc tournées dans un état de brouillard. Cette tristesse et cet état second se ressent dans la tenue et le rythme du film, hein, très beau et parfaitement divertissant, mais qui ne figure pas parmi, il faut être honnête, les réussites majeures du cinéaste, capable 2 ans auparavant de signer un chef-d'œuvre comme Manon des Sources. Alors les différents segments Des Lettres de Montmoulin gardent le charme et la simplicité universelle des fables, et c'est ce que nous pourrons vraiment retenir de cet ultime film de Pagnol, d'aller directement au cœur et à la source, sans Manon, de ce qui fait la force de ces histoires.
Eh bien, ce film, vous pouvez le retrouver soit en VOD, soit en DVD Blu-ray. Et tu reviens la semaine prochaine pour achever cette série sur Marcel Pagnol. Allez, c'est maintenant la partie actualité de cette émission avec deux films cannois, deux films de la compétition. Nous allons commencer avec celui qui était sans doute le plus attendu. C'est Alpha de Julia Ducournau, la plongée dans un monde où les malades deviennent des statues.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Oui, on est comme on est.
S'il y avait donc un film très attendu lors du dernier festival de Cannes, eh bien c'était celui de Julia Ducournau, puisqu'avec Titane, aux grandes dames de Nanni Moretti, eh bien elle avait remporté la Palme d'Or. Et si Ruben Östlund est capable d'en remporter une coup sur coup, avec The Square et Sans Filtre, eh bien ce n'est pas le cas de la cinéaste française dont le film a été écorné par la critique et a été complètement oublié par le jury. Alors il se trouve que je fais partie de ceux qui veulent défendre ce long métrage. Alors que Titane m'avait laissé un peu sur le bord de la route ou de la caserne des pompiers, eh bien j'ai apprécié Alpha pour sa valeur cinématographique et sa puissance visuelle.
Chin chin, please, if you're guessing me, I'll leave.
Depuis son premier film, Grave, la réalisatrice française a une approche viscérale et audacieuse du corps et de sa transformation. Elle interroge les frontières entre le normal et le monstrueux en usant d'un stratagème sensoriel. Et c'est précisément ce qui est à l'œuvre dans Alpha. Alpha, c'est le prénom d'une adolescente de 13 ans qui est agitée. Elle vit seule avec sa mère. Leur relation se trouve transformée lorsqu'Alpha revient d'une fête avec un tatouage sur le bras. Alors comment ce tatouage a-t-il été gravé sur la peau? Quelle aiguille a été utilisée et qui l'a fait utiliser avant? La mère médecin n'en sait rien. Et ce simple indice nous fait basculer dans la période sida des années 90 quand la maladie faisait des ravages. La peur du virus, les corps attaqués, Ducournau le met en scène d'une manière brillante. Ici, les corps soumis à la maladie ne s'atrophient pas mais se transforment en sculptures quasi funéraires où les veines s'apparentent à celles du marbre. La vie s'estompe, le corps se solidifie au point que les malades expulsent de la poussière. Alors il y a dans cette exploration de la maladie un vrai geste cinématographique et pictural qui fait d'Alpha un objet singulier.
Tu viens pas de manger? Elle est chez maman la petite. Je pourrais aller la voir.
Tu la verras quand t'auras 2-3 kilos en plus, non?
Tu veux que je te dise un secret? J'ai attrapé un truc. Ragged cup and a twisted mind. Face of Jesus in my
soul. Those sinister dinner deals. Alpha est singulier également dans la manière qu'il a de mener son récit. Il y a quelque chose de retors dans la narration. Ducournau s'applique à dissoudre le présent pour faire surgir le passé, ou plus exactement le superposer. Il y a des éléments qu'il faut taire, hein, sinon on peut gâcher le plaisir du spectateur, mais il faut bien parler du surgissement d'un personnage interprété par un Tahar Rahim méconnaissable à la manière d'un Christian Bale dans Deux machinistes. Eh bien, il ne lui reste que la peau sur les os. Il interprète ainsi un frère, celui de la mère médecin, bouffé par la drogue et aidé par sa frangine, interprété par Golshifteh Farahani. Et ce personnage de Tahar Rahim est présent dans la vie de l'adolescente au point de devenir une vision obsédante.
C'est quoi ça? Tu sais qu'il y a un virus qui circule, non? T'as pas parlé de ton oncle, hein?
Mais pourquoi?
Putain!
Tu restes là!
Mais pourquoi tu le laisses pas?
Parce que c'est comme ça! Maman!
Trop d'amour des fois ça. Des fois les gens ça les rend fous.
Tu peux plus rester avec nous.
Il semble y avoir un présent, le monde semble encore habitable, mais il est battu par les vents et la poussière. Cependant, Ducournau, en enchâssant les récits, en superposant les images, cherche l'intemporalité, s'intéresse aux visions de ses personnages et à ce qu'ils vivent. La trajectoire de l'adolescente est centrale, car à mesure que le récit avance, elle semble se transformer, un mal semblant s'emparer d'elle, la contraignant à être montrée du doigt par ses camarades. Et il y a une scène de piscine où le sang se mêle au chlore, qui est traité sous les traits du suspense, et qui est parfaitement redoutable. Alors parmi les personnages secondaires, celui de Finnegan Oldfield, professeur de français qui accompagne son compagnon vers la mort, une mort qui n'est pas anecdotique mais presque sacrée. Et dans ce film politique et plastique, eh bien, il est question d'amour filial et fraternel, mais aussi de deuil. Tout cela dans un geste cinématographique, je le répète, qui, s'il ne convaincra pas tout le monde, a le mérite d'être singulier. Alpha de Julia Ducournau est en salle depuis le 20 août. Deuxième film présent à Cannes, il a remporté le grand prix, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier, et c'est Sophia qui nous en parle.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Parmi les films les plus attendus du dernier festival de Cannes, Valeurs sentimentales de Joachim Trier occupait une place de choix. Le réalisateur norvégien retrouvait donc Renate Reinsve, son actrice muse, depuis Oslo 31 août en 2011, puis Julie en 12 chapitres, prix d'interprétation féminine donc en 2021 à Cannes. Valeurs sentimentales poursuit son exploration des failles intimes et des liens familiaux. Présenté en compétition officielle, le film a remporté le Grand Prix, consacrant une œuvre à la fois dense, pudique et profondément émouvante. Moins flamboyant que Julie, mais tout aussi maîtrisé, Valeurs sentimentales impose une émotion plus feutrée, plus souterraine. Une œuvre grave et fragile qui interroge avec pudeur ce qu'il reste de valeur ou sentiment lorsqu'on rouvre les blessures familiales et ce qu'on devine parfois trop tard des douleurs silencieuses.
Kan ikke
pas de l'art sont écart de bien comme moi.
Oh là là. Alors?
À Oslo, Nora, interprétée donc par Renate Reinsve, est une actrice reconnue à la fois figure du théâtre national et ancienne star d'une série télé populaire. Mais depuis quelque temps, elle ne parvient plus à monter sur scène sans faire de crise d'angoisse, un trac profond, paralysant, peut-être lié à la perte récente de sa mère. C'est dans ce contexte que réapparaît Gustave, joué par Stellan Skarsgård, son père, cinéaste absent de longue date. Il revient avec un scénario inspiré d'un drame personnel, le suicide de sa propre mère dans la maison familiale lorsqu'il avait 7 ans et propose à Nora de jouer le rôle principal. Elle refuse. Gustave se tourne alors vers une actrice américaine, Rachel, incarnée par Elle Fanning, qui prend symboliquement sa place. Entre Nora, sa sœur Agnès, la plus conciliante de la fratrie, et ce père désormais vieillissant, se rejoue une histoire de transmission abîmée, de silences enfouis et de blessures qui peinent à se refermer. Le film s'ouvre sur la voix off de Nora qui donne la parole à une maison. Un texte qu'elle a écrit adolescente pour une épreuve littéraire et qu'elle envisageait de jouer au conservatoire. Mais voilà, cette ouverture installe la maison familiale d'Oslo comme un personnage à part entière, traversé de fissures. Un dispositif qui peut rappeler quelques films récents comme Here de Robert Zemeckis en 2024, adapté du roman graphique de Richard McGuire, film dans lequel la caméra reste fixe dans le salon d'une maison. À travers la superposition de vignettes temporelles, elle devient témoin muet de 3 siècles de vie familiale. Trier, lui, choisit un régime narratif plus traditionnel, pas de plan fixe centenaire, mais installe néanmoins un point de vue géographiquement situé. La maison, fouillée comme un lieu de mémoire, palimpseste de transmission et de blocage. Avec la mort de leur mère, Nora et sa sœur doivent la vider, leur maison. Un geste intime qui dévoile les fractures familiales et laisse ses plaies à nu. Car c'est dans cette maison que s'est suicidée la mère du père quand il avait 7 ans. C'est également dans cette maison que le père alcoolique et la mère se sont violemment séparés et que celui-ci est parti, abandonnant Nora et sa sœur, ce qui en fait un lieu doublement traumatique. Et c'est enfin aussi dans cette maison que le père veut tourner son nouveau film. Un autre écho cinématographique contemporain pourrait se trouver dans Présence de Steven Soderbergh, où la caméra adopte le point de vue d'un esprit invisible dans la maison, révélant un regard porté par un lieu sur une famille meurtrie. Mais vous ne trouverez rien de fantastique dans Valeur sentimentale. La maison y adopte une forme de subjectivité discrète, appelant simplement à revisiter ce qui s'est joué entre ses murs. Joachim Trier orchestre tout cela avec une élégance discrète et un humour solaire du Bergman qui aurait rallumé la lumière. Sa mise en scène reste fluide, rigoureuse, toujours au service de l'émotion. Les interprétations sont puissantes. Renate Reinsve incarne une Nora plus opaque que dans Julie, traversée par une peur presque physique du lien, mais qui offre avec sa sœur une des plus belles déclarations de sororité du cinéma. Stellan Skarsgård, lui, compose un père cabossé, à la fois lucide et dans le déni, loin des figures paternelles écrasantes ou coupables que le cinéma scandinave a souvent radicalisé depuis l'ère du dogme 95. Avec Valeur sentimentale, Joachim Trier s'en écarte. Gustave n'est pas puni, mais regardé comme un homme blessé qui cherche maladroitement à renouer. Et le film questionne la vulnérabilité masculine et le recours à l'art comme tentative imparfaite de réparation.
Alors je vais donner rapidement mon avis sur Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Alors il a eu le Grand Prix au Festival de Cannes, beaucoup lui donnaient la Palme d'Or. Il a beaucoup marqué, alors surtout des exploitants. J'ai beaucoup discuté avec des exploitants qui ont trouvé que c'était le film de Cannes. Alors moi je l'ai trouvé au contraire très attendu, ce film, du point de vue du scénario, avec ce personnage qui, pour résoudre une crise familiale, va renouer avec le cinéma. Enfin, j'ai trouvé ça très attendu. Alors En revanche, la mise en scène, effectivement très claire et implacable. C'était plutôt trop attendu pour moi pour avoir au moins la Palme d'Or, même si c'est un film tout à fait appréciable.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui,
c'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'été et on retrouvera encore nos deux séries, celle sur les bandes originales de films et puis celle sur Pagnol qui se clôturera la semaine prochaine.